Il est 12h30 sur France Culture. Les informations, Antoine Mercier, presque 31. Voilà, je vois votre regard.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Un attentat ce matin très meurtrier au Nigeria, une bombe qui explose dans un collège dans le nord-est du pays au cœur de l'insurrection de Boko Haram. Il y aurait une cinquantaine de morts, notamment parmi les élèves. Précision de Ludovic Piétenu dans un instant. Le président américain qui annonce une nouvelle étape qui s'ouvre dans la guerre en Irak. Les Américains qui ne veulent plus seulement stopper les djihadistes mais lancer une offensive contre eux. Ce serait au printemps prochain, analyse d'Éric Biegala. Barack Obama qui entame par Pékin une tournée en Asie. Le président américain qui déclare que la Chine doit libéraliser son marché et la conversion de sa monnaie. Correspondance de Philippe Reltien sur place, commentaire de Bruno Cadenne. Forte mobilisation enregistrée hier lors de la consultation populaire sur l'indépendance en Catalogne. Plus de 2 millions de votants et 80% de oui. Le président de la région exige maintenant un vrai référendum sur la séparation d'avec l'Espagne. Correspondance de Marie-Hélène Balestero. Et puis en France, Jean-Pierre Jouyet, fragilisé après ses revirements sur la teneur de ses échanges lors d'un déjeuner avec François Fillon révélé par des journalistes du Monde, suivi de Stéphane Robert à la fin de cette édition. L'invité du journal, Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. Et dans la dernière partie, Caroline.
On parlera nature, culture, humain, non-humain, avec l'un des plus grands anthropologues en France aujourd'hui, c'est Philippe Descola.
Un attentat à la bombe donc dans une école secondaire dans le nord-est du Nigeria qui a fait au moins 48 morts, essentiellement donc des élèves, et près de 80 blessés. Une bombe qui explose pendant l'appel matinal dans cette école de Potiskum, c'est une ville de l'état de Yobe qui est déjà ensanglantée par un attentat suicide la semaine dernière qui avait fait une trentaine de morts. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais cet état donc de Yobe est en plein cœur de l'insurrection des islamistes armés de Boko Haram, Ludovic Piétenu.
Oui, cet état de Yobe, c'est l'un des trois états nigérians sous loi martiale depuis un an et demi. On est donc en zone de guerre, dans la zone d'influence de la secte islamiste Boko Haram, à 220 km de Maïdougouri, dans l'état de Borno, là où se concentre l'insurrection de la secte islamiste. Potiskum, c'est le grand centre commercial de cet état. La ville est régulièrement attaquée. Elle compte environ 200 000 habitants. L'école visée était une école secondaire scientifique de garçons. Parmi les images qui nous parviennent du lieu de l'explosion, l'une d'entre elles montre une dizaine de corps d'enfants ensanglantés alignés dans une salle de classe. On parle d'au moins 48 morts, 80 autres enfants blessés ont été transportés à l'hôpital qui par chance se trouve juste à côté. La bombe a explosé au milieu des élèves rassemblés dans la cour à l'heure de l'appel, 7h50 précisément, la même heure au Nigeria ou à Paris. Il y a une semaine, Antoine, même mode opératoire, c'est parmi la foule, au cœur d'une procession chiite que l'assaillant avait actionné sa charge dans cette ville, tout près du marché. Il y avait eu près de 30 morts. Il faut comprendre la situation de surenchère dans la région, alors que les autorités expliquent à l'opinion depuis un mois qu'un cessez-le-feu a été trouvé, ça n'est pas le cas. Ce qu'il faut rappeler, c'est aussi la façon dont l'armée nigériane mate la rébellion de Boko Haram. Un exemple, après l'attentat suicide de lundi dernier, dans cette même ville de Potiskum, l'armée a arrêté une quinzaine d'hommes, dont un imam sunnite. Ils ont tous été retrouvés morts quelques heures plus tard. Selon plusieurs ONG, c'est une exécution sommaire des hommes tués par balle pour leur appartenance à l'ethnie Kanuri, souvent associée à tort à Boko Haram.
Ludovic Piétenu, merci.
Les djihadistes d'Ansar Beit al-Maqnes, principaux auteurs de nombreux attentats visant l'armée et la police en Égypte, ont annoncé ce matin qu'ils prêtaient allégeance à l'organisation État islamique.
Oui, c'est un groupe qui est basé dans le Sinaï, donc qui s'est formé à la faveur du vide sécuritaire qui a suivi la chute de Moubarak en 2011 et qui a multiplié donc les attentats meurtriers ces derniers mois contre les forces de l'ordre. Cette annonce a été faite alors que le président américain annonçait hier soir une nouvelle étape qui s'ouvre en Irak, selon lui, les Américains qui ne veulent plus, dit-il, seulement stopper les djihadistes, mais bien maintenant lancer une offensive contre eux pour les refouler. On parle, Éric Biegala, donc d'une grande offensive qui serait lancée le printemps prochain.
Oui, c'est en tout cas ce que semble suggérer ce surge, cette poussée américaine, ce doublement du nombre de conseillers militaires et autres membres des forces spéciales qui doivent arriver en Irak ces prochaines semaines. Ils seront d'ailleurs probablement secondés par des soldats australiens et canadiens qui, eux aussi, disposent déjà d'un contingent à pied d'œuvre en Irak, en tout près de 300 hommes actuellement. Un contingent qui pourrait être, lui aussi, sensiblement renforcé. C'est en tout cas le sens de la rencontre rencontre entre Barack Obama et le Premier ministre australien Tony Abbott en marge de la réunion de l'APEC en ce moment à Pékin. L'objectif affiché par la Maison-Blanche, c'est de réussir à équiper et à entraîner environ 12 brigades irakiennes, dont 3 brigades de Peshmerga kurdes, soit en tout environ 24 000 hommes. Les conseillers militaires américains ne sont pas censés opérer directement sur le champ de bataille, mais conseiller les états-majors au niveau de chaque brigade, voire faire fonctionner ces brigades. A priori, aucun militaire américain ne devrait donc accompagner les forces irakiennes pour, par exemple, guider les chasseurs-bombardiers occidentaux pour des opérations d'appui aérien rapprochées. Reste que construire ou reconstruire ces 12 brigades irakiennes prendra du temps et coûtera de l'argent. L'administration Obama vient d'ailleurs de demander au Congrès une rallonge budgétaire d'$1,6 milliard spécifiquement pour ce faire. Il faudra compter sans doute plusieurs mois avant que ces unités soient effectivement capables de se mettre en ordre de bataille. Et selon des cadres de l'état-major central américain, chargé de la planification opérationnelle et cité par le New York Times la semaine dernière, cela ne représenterait que la moitié des forces nécessaires pour monter une véritable contre-offensive d'envergure et reprendre les quelques 30% du territoire irakien actuellement contrôlé par l'État islamique. Une contre-offensive qu'on ne risque donc pas de voir avant le printemps 2015.
Merci beaucoup Eric Biegala. À Tel Aviv, un Palestinien ce matin poignarde un soldat israélien. C'est passé près d'une gare. Il a été transporté dans un état critique à l'hôpital. L'agresseur est originaire de la région de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Il séjournait apparemment illégalement sur le territoire israélien. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant.
Barack Obama entame une tournée en Asie. Première étape aujourd'hui, la Chine.
À Pékin, où se tient le Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Le président américain qui déclare que la Chine doit libéraliser son marché et aussi la conversion de sa monnaie, la correspondance de Philippe Reltier.
La prospérité d'un pays ne doit pas se faire au détriment d'un autre, déclare Obama, qui souhaite une Chine prospère, pacifique et stable. Obama est venu faire contrepoids à la Chine sans vouloir froisser Xi Jinping. Il va longuement rencontrer en tête-à-tête mardi et mercredi. Il était attendu sur la situation à Hong Kong. Allait-il oser en parler? Quels que soient nos intérêts primordiaux, le message de l'Amérique à la Chine est qu'il faut éviter les violences, respecter les droits de l'homme et la liberté de la presse. Petite mise au point sur les entraves à la libre concurrence. La Chine doit rejeter l'espionnage informatique, ouvrir ses marchés et négocier un traité bilatéral d'investissement. Cette question est au centre des débats au sommet de l'APEC et dans les sommets qui suivront en Birmanie et en Australie. Qui de la Chine ou des États-Unis va établir les règles du commerce international pour la région Asie-Pacifique? Il apporte en cadeau des visas d'entrée pour les touristes chinois valables 10 ans au lieu d'un an, 5 ans pour les étudiants, effectif mercredi. Et il se dit ouvert à la coopération pour relever des défis comme celui du climat ou de la menace nord-coréenne, pas écarté par le petit geste de Pyongyang qui a libéré deux Américains, ou encore la libre circulation maritime et le droit de la mer, sujet épineux qu'il abordera plus tard avec Xi Jinping.
La Chine et le Japon qui ont par ailleurs fait un premier pas vers un dégel de leurs relations en marge de ce forum de l'APEC. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président chinois Xi Jinping ont tenu donc leur premier sommet bilatéral. C'est un premier signe de dégel après plus de deux années d'animosité. Bruno Cadenne, bonjour.
Bonjour.
Alors à l'occasion de ce sommet des grands pays donc qui entourent cet immense océan Pacifique, on se rend bien compte que la Chine est effectivement devenue la puissance dominante et qui est courtisée par toutes les autres.
États-Unis, Corée du Sud, Japon, Russie, toutes ces puissances se tournent vers la Chine, mais pas pour les mêmes raisons ni avec les mêmes espoirs. Barack Obama a fait de la zone Pacifique et de la Chine la pierre angulaire de sa politique diplomatique. Pour Barack Obama, la Chine, c'est avant tout un partenaire pour relancer son économie. Il faut donc favoriser le commerce, le libre-échange, les investissements, le tourisme, bref, tout ce qui peut développer le business. La Corée du Sud est également sur cette ligne commerciale, mais d'une manière plus pragmatique. Les deux pays sont voisins et il s'agit avant tout d'éliminer les droits de douane au nom du bénéfice commun. Avec le Japon, on entre dans le domaine du symbolique. Tokyo a été au XXe siècle le numéro un incontesté de l'Asie orientale. L'émergence de la Chine lui pose un problème. Derrière les discours nationalistes à usage intérieur, Shinzo Abe ne peut faire autrement que d'essayer de trouver un compromis historique avec Pékin. Pour la Russie, la carte chinoise sert surtout Vladimir Poutine sur le plan interne. Il doit prouver à son opinion que la Russie n'est pas isolée, qu'elle peut se passer de l'Occident et que la Chine est la solution pour vendre son gaz et retrouver sa splendeur de grande puissance. Tout le monde attend donc quelque chose de la Chine, mais la Chine alors? Elle marque des points à tous les coups, économiquement et diplomatiquement, en poursuivant son but, devenir la première puissance mondiale. Sauf que Xi Jinping joue avec ses propres règles et cela se voit, que cela soit à Hong Kong, avec les minorités non chinoises ou les défenseurs des droits de l'homme.
Bruno Cadenne, merci beaucoup. Il est 1h moins 20. Forte mobilisation enregistrée hier lors de la consultation populaire sur l'indépendance. On parle évidemment de la Catalogne. Le président Artur Mas exige ce matin maintenant un vrai référendum. Référendum sur la séparation définitive avec l'Espagne. Il y a eu plus de 2 millions de votants et donc plus de 80% de oui. Marie-Hélène Ballesteros, bonjour.
Bonjour.
Alors certes, évidemment, ce n'est qu'une consultation qui n'a pas de valeur contraignante, loin s'en faut, mais tout de même, c'est un succès dont il faudra peut-être tenir compte.
Oui, tout à fait. Même si pour certains, à l'instar du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau, une consultation antidémocratique, distille un acte de propagande politique sans aucune valeur juridique. Alors certes, il n'y a eu que 2,2 millions d'électeurs qui se sont déplacés hier. Cela représente un peu plus du tiers des électeurs en Catalogne. Or, la participation dans cette région est généralement beaucoup plus forte. Mais on ne peut pas non plus nier la force de ces indépendantistes et le fait qu'il y a un problème en Catalogne, un problème qu'il va falloir régler. 80% des électeurs ont dit oui hier à un État catalan, oui à l'indépendance de la Catalogne. Même si cette consultation n'est pas légale, eh bien la mobilisation des indépendantistes doit être prise en compte et on ne peut pas éternellement faire l'autruche et il faut désormais que les acteurs s'assoient autour d'une table et acceptent de dialoguer.
Alors Madrid refusait jusqu'à présent donc de négocier quoi que ce soit, mais selon les observateurs, la presse, notamment espagnole ce matin, la position du pouvoir central va devoir, pourrait évoluer assez rapidement vers ce sens de la négociation.
Oui, alors on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais comme vous le dites, la raison voudrait que le président de la Catalogne, Artur Mas, et le chef du gouvernement central, Mariano Rajoy, acceptent de dialoguer pour négocier une sortie de crise. C'est vrai que le fossé qui les sépare semble énorme. Artur Mas devrait réclamer la tenue d'un référendum définitif légal. Rajoy ne souhaite pas en entendre parler. Alors, comment vont-ils pouvoir se rapprocher? Vont-ils accepter de faire des concessions? En cas d'échec des négociations, on sait qu'Artur Mas pourrait convoquer des élections anticipées permettant de proclamer l'indépendance de la Catalogne. C'est ce que réclament les partis indépendantistes catalans comme ERC, qui montent actuellement et qui veulent que ces élections aient lieu au plus vite pour proclamer l'indépendance de la région. Et puis, il y a la troisième voie, une voie qui prône le Parti socialiste espagnol, c'est-à-dire une réforme fédérale de la Constitution qui permettrait d'avancer vers une Espagne plus fédérale et qui accorderait plus de pouvoir à la Catalogne. Autant d'opinions divergentes sur une même question épineuse, c'est-à-dire l'avenir de la Catalogne et de l'Espagne. Et pendant ce temps-là, eh bien sachez que la justice espagnole examine de près si la consultation symbolique d'hier, qui avait été interdite par le tribunal constitutionnel, sera oui ou non punie par la loi.
Et aussi avenir de l'Europe. Merci beaucoup, Marie-Hélène Ballesteros.
Cela ressemble à une affaire politique. François Fillon accuse Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, d'avoir menti en affirmant que l'ancien Premier ministre avait évoqué devant lui l'affaire Big Malion lors d'un déjeuner.
Alors on reprend dans un livre, il y a deux enquêteurs du Monde qui relatent la tenue de ce déjeuner, donc au cours duquel François Fillon aurait dénoncé auprès du secrétaire général de l'Élysée le remboursement par l'UMP des pénalités liées au dépassement du plafond des dépenses de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Depuis donc, l'affaire fait la une des journaux, mais il faut quand même peut-être commencer, Stéphane Robert, par rappeler précisément quels sont les faits dans cette affaire.
Oui, rappelons d'abord qu'il y a deux versions contradictoires dans cette affaire. Celle de François Fillon qui affirme qu'il n'a jamais tenu les propos qu'on lui prête et celle de Jean-Pierre Jouyet qui reconnaît au bout du compte avoir parlé des affaires qui entourent Nicolas Sarkozy avec François Fillon, à cause manifestement d'un enregistrement réalisé quand il a rencontré les deux journalistes au mois de septembre. Et finalement, aujourd'hui, c'est lui, le secrétaire général de l'Élysée, qui se retrouve en porte-à-faux et qui va devoir s'expliquer. Alors maintenant, quelle version est la bonne? Impossible de le dire à ce stade. Et au final, qu'y a-t-il de tangible dans cette histoire? Pas grand-chose. Commençons par le début. François Fillon rencontre Jean-Pierre Jouyet au cours d'un déjeuner le 24 juin dernier. Si l'on s'en tient à la version de Jouyet, Fillon lui aurait parlé de Big Malion et des pénalités judiciaires infligées à Nicolas Sarkozy pour dépassement de frais de campagne, 500 000 euros qui n'ont pas été payés par Sarkozy mais par l'UMP. Fillon aurait ajouté que ça n'était pas normal, qu'il y avait potentiellement là quelque chose d'illégal et qu'il fallait taper vite avant que Nicolas Sarkozy ne revienne en politique. Que ce soit vrai ou pas, en tout cas, on sait que François Fillon nourrit une profonde animosité envers l'ex-président, qu'il est scandalisé par Big Malion et le paiement des pénalités acquittées au nom de Sarkozy par l'UMP. Et toujours dans le cas où ce que dit Jouyet serait avéré, ce qui n'est pas le cas pour le moment, au final, quoi de surprenant à ce qu'il en parle à son ami Jouyet et à ce qu'il essaie d'accélérer un peu les choses. Bon, il y a certes l'idée que le pouvoir politique peut instrumentaliser la justice, mais entre nous, ça a été le cas à de nombreuses reprises par le passé et il y a eu beaucoup plus grave. On ne parle pas là de tentatives de corruption, on est dans le monde des politiques qui se croient un peu au-dessus des lois et qui discutent entre personnes qui se connaissent et s'apprécient.
Alors dans ces conditions, pourquoi, comment comprendre que cette affaire fasse finalement beaucoup de bruit, autant de bruit?
Alors déjà, dans quelle mesure est-ce que ça prend? On a peut-être là une affaire qui agite uniquement le petit monde politico-médiatique et qui ne concerne concerne les Français que de très loin. C'est le microcosme qui s'entre-déchire. C'est lui qui m'a dit ça. Non, c'est pas vrai, c'est toi qui mens. Et puis tu vas voir, je vais prendre le bâton judiciaire, ça va barder. Ça ressemble à une querelle de cours de récré à laquelle on donne peut-être une importance démesurée. Ensuite, ça prend parce qu'on est dans l'arrière-cour politico-politicienne, entre gens très haut placés qui se chamaillent dans l'arrière-cuisine, avec un Fillon qui, au dire de Jouyet, trahit Nicolas Sarkozy, un Jouyet qui, si tout cela est vrai, trahit Fillon en racontant ce qu'il sait, et des journalistes qui, s'ils n'ont pas dit explicitement qu'ils enregistraient, trahissent Jouyet en révélant l'affaire. C'est comme un film qui s'intitulerait « Petite trahison entre amis ». Vu d'en bas, c'est plutôt rigolo et ça ramène tous ces gens qui s'imaginent au sommet de l'échelle sociale à ce qu'ils sont en réalité, des êtres humains comme les autres. Et puis, troisièmement, c'est peut-être le plus important, il y a le contexte, les difficultés économiques, de plus en plus de chômeurs, l'inquiétude sur l'avenir, et il y a comme l'expression d'une frustration vis-à-vis de ces gens qu'on voit comme mieux lotis. Le degré d'exigence grandit, on leur demande d'être exemplaires, alors que comme beaucoup d'autres êtres humains, ils mentent, ils trichent, ils manœuvrent en coulisses. En d'autres temps plus heureux, ça n'aurait pas eu grande conséquence, mais dans un contexte d'angoisse collective face à l'avenir, ça devient intolérable. Et le danger serait qu'on transforme cette angoisse et ces frustrations en hystérie et qu'on en vienne à jeter l'opprobre comme une damnation sur l'ensemble de la classe politique.
Stéphane Robert, merci beaucoup pour ces explications. Et bonjour Florence Cohen.
Bonjour.
Sénatrice communiste du Val-de-Marne. Alors, François Fillon n'aime pas Nicolas Sarkozy. Il en parle à son ami Jean-Pierre Jouyet. Qu'est-ce qui vous choque dans tout cela ?
Écoutez, ce qui me choque, c'est qu'on en fasse un événement politique, parce que pour moi, ça n'est pas un événement, compte tenu justement du contexte où les gens sont plutôt en souffrance et où les réponses qui sont apportées par le gouvernement aujourd'hui ne répondent absolument pas à l'attente et aux besoins des populations. Donc, par exemple, cet après-midi, au Sénat, on va examiner le projet de budget de la Sécurité sociale. C'est quelque chose de très important qui impacte la vie des gens et moi, j'aimerais bien que ce soit ça qui fasse la une de la politique et non pas les petites affaires qui discréditent, effectivement, je suis d'accord, un certain monde politique. En tout cas, ce n'est pas le mien.
Excusez-moi pour avoir écorché votre prénom. Donc, Laurence Cohen, non pas Florence Cohen. Laurence Cohen, vous dites qu'on a tort d'en parler, mais est-ce qu'on a tort en soi ? La presse a tort d'en faire aussi des gros titres ?
C'est pas qu'on a on est tort. Je ne suis absolument pas pour dire qu'il ne faut pas parler du tout. Mais je trouve que là, on est en train de faire monter cet événement et qu'à chaque fois, moi, j'ai l'impression que la politique, elle se résume un peu au showbiz, à la petite phrase d'un tel ou d'une telle qui va tacler l'autre et qu'en fait, on ne vient pas sur le fond. Ce qui intéresse, à mon avis, les gens dans les quartiers, dans les zones rurales, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on va répondre effectivement aux besoins des gens et faire en sorte qu'il n'y ait pas de telles inégalités dans notre pays.
On va reparler de tout ça, mais je vais d'abord saluer notre invité à la dernière partie, Philippe Descola. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous avez étudié les tribus des Indiens Jivaro-Achuar dans le haut bassin équatorien du Rio Pastana.
Pastaza.
Excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe à l'UMP ?
Bah écoutez, j'ai débarqué d'Osaka dans la nuit et ce matin, où je venais de passer 15 jours au Japon, je découvre en écoutant la radio que ce qui agite tout le monde, c'est cette affaire dérisoire. Et au fond, la question que ça permet de poser, c'est qu'est-ce qui constitue un événement et en quoi un événement est-il politique ? Et ce qui constitue un événement pour moi, c'est la disparition d'une espèce, c'est le fait qu'une vallée en Amazonie était inondée par un barrage, c'est la fermeture d'une école pour filles en Afghanistan, et c'est pas une discussion de ce type-là. Et ça donne une idée, au fond, de la réforme profonde de la vie politique, qui est indispensable non seulement en France, mais dans le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous sommes des collectifs qui devons agir ensemble, avec des humains, mais aussi avec des non-humains, de façon à mieux habiter la planète commune.
Voilà, et bon, on reparle de tout ça évidemment dans un petit instant. Philippe Descola, merci beaucoup pour avoir accepté de donner une réaction à ce sujet. On va revenir à la politique, donc maintenant peut-être la politique plus sérieuse. Ce week-end dernier, se tenait à Montreuil une conférence nationale du Parti communiste. Pierre Laurent a de nouveau tendu la main aux amis frondeurs, écologistes ou tout simplement socialistes affligés, dit-il, pour construire une alternative à l'austérité. Ce sont ces termes. Le Parti communiste est devenu, Frédéric Seyss, depuis
puis peu à peu, finalement, un vrai parti d'opposition.
Oui, la déclaration de ce week-end marque une rupture avec le positionnement qui prévalait jusqu'ici, depuis le début du quinquennat, celui de l'entre-deux, ni majorité, ni vraiment opposition. Positionnement qui a d'ailleurs montré ses limites en termes électoraux lors des municipales. À l'époque, le PC, très critique au niveau national, avait tout de même décidé de s'allier au niveau local avec le PS, en tout cas dans près de la moitié des municipalités, pour préserver ses conseillers municipaux sortants. La stratégie n'avait évidemment pas réussi. Politiquement, le PCF avait sombré avec toute la gauche. Stratégiquement, les divergences s'étaient creusées avec l'allié Jean-Luc Mélenchon, qui lui était partisan d'un front de gauche indépendant partout. Ce qu'ont dit les communistes hier, c'est qu'une telle alliance rose-rouge n'est plus envisageable cette fois-ci pour les départementales en mars et pour les régionales en décembre. Alors c'est vrai qu'il y a moins à perdre, le PCF compte seulement deux conseils généraux, l'Allier et le Val-de-Marne, mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour mettre en place cette stratégie d'autonomie? Eh bien, au PC, on fait savoir qu'en mars, le gouvernement Ayrault laissait encore planer une certaine ambiguïté sur son cap, ambiguïté qui a disparu depuis Manuel Valls. Autre question, au-delà des associations d'appareil, parti de gauche, parti communiste, qui pour intégrer cette majorité alternative? Depuis le début de l'année, Pierre Laurent, le patron du PC, a pris son bâton de pèlerin. Il est allé à l'université d'été socialiste à La Rochelle, mais aussi au Rassemblement des Frondeurs, dans l'Essonne, avec Benoît Hamon dans les Landes. Partout, un constat similaire, la politique menée n'est pas la bonne. Partout aussi, des appels au rassemblement qui n'ont eu d'autre effet concret que quelques applaudissements près des tribunes.
Frédéric Saïs, merci. Alors Laurence Cohen, où est-ce que vous allez trouver cette majorité politique pour l'alternative à gauche que les communistes donc appellent de leur vœu?
Écoutez, ça, je pense que ça ne vous a pas échappé que dès le départ, au moment où on contribue à élire Hollande, on ne participe pas au gouvernement parce que déjà, il y a des désaccords importants. On a pensé pouvoir avancer sur un certain nombre de propositions avec les socialistes et notamment en faisant des propositions lors des discussions parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les choses n'ont pas marché. Et petit à petit, on a vu le fossé se creuser justement entre Hollande candidat qui avait fait un certain nombre de promesses et Hollande président de la République. Et on a toujours essayé, on a toujours tendu la main pour un grand rassemblement large à gauche avec nos partenaires d'abord du front de gauche bien évidemment, puis avec toutes celles et tous ceux qui veulent et qui croient qu'on peut changer la politique. Et nous on pense qu'on peut changer la politique, qu'on peut faire autrement.
Frédéric Saïs.
Alors, il y a plusieurs choses dans les alliés que vous souhaitez récupérer ou que vous souhaitez en tout cas avoir avec vous dans cette majorité alternative. Vous l'avez dit, il y a le parti de gauche, il y a aussi les mouvements citoyens dont vous parlez beaucoup. Et puis les frondeurs, on se pose quand même la question parce qu'ils s'abstiennent, mais ils ne vont pas jusqu'à vouloir renverser le gouvernement Valls. Dans ce cadre-là, est-ce que ça peut être des alliés conséquents et sérieux?
Quand vous dites effectivement le PG, c'est l'ensemble du front de gauche. Et dès le départ, le front de gauche, c'est au-delà des seuls cartels politiques. La difficulté, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à rassembler des citoyennes, des citoyens, les gens, en fait, du peuple qui souffrent. Et c'est ça aussi le défi qu'on a à relever. Et c'est ça que, d'ailleurs, Pierre Laurent a lancé comme appel. Il a fait un appel au peuple de France.
On était trop dans l'appareil jusqu'à présent, c'est ça ?
Un peu à notre corps défendant. C'est-à-dire que ceux qui ont répondu, c'était plus, effectivement, des partis politiques, des formations politiques, quelques citoyens, mais trop peu.
Est-ce que vous voulez faire comme Podemos en Espagne, où on voit quelque chose qui naît précisément de ces mouvements citoyens, ou est-ce que ça vous déborderait trop en tant que parti communiste?
Non, pas du tout, ça ne nous déborderait pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut réagir. Il y a un populisme, il y a un Front National qui est extrêmement dangereux et qui ne va pas dans l'intérêt des peuples, et notamment des Françaises et des Français. Et face à ça, il faut se rassembler, mais pas sur n'importe quoi, sur des contenus politiques pour changer la politique. Et moi, je suis bien placée en tant que sénatrice, je peux vous dire qu'au Sénat, il n'y a pas de frondeur. Voilà. Donc effectivement, il y a des critiques, mais au moment des votes, eh bien, malheureusement, les collègues socialistes se retrouvent derrière le gouvernement. C'est pas comme ça qu'on peut faire bouger les choses.
Quel gouvernement socialiste encore jusqu'à présent, Frédéric Saïs.
Votre parti allié, le parti de gauche, a fait voter ce week-end une votation citoyenne, comme l'on dit, sur la révocation des élus à mi-mandat par le peuple. Vous qui êtes sénatrice, communiste du Val-de-Marne, je le rappelle, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Est-ce que les électeurs auraient pu vous renvoyer, les grands électeurs en ce qui vous concerne, à mi-mandat?
Moi, je pense surtout qu'il faut, il faut nourrir plusieurs choses. D'abord, la proximité avec les gens. Quand on est élu, on n'est pas élu pour soi. Pour ça, si on veut que les élus soient à l'image de la société, il faut un statut de l'élu, pour qu'il n'y ait pas une certaine catégorie d'élus qui représente une partie seulement de la population, mais pas les gens, justement, dans les quartiers ou dans les zones rurales. Et il faut effectivement repenser les institutions, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle de nos voeux une 6e République.
Et la révocation ?
La révocation, ça peut être un outil, mais révocation, si vous voulez, c'est toujours quelque chose qui peut apparaître radical. S'il y a un vrai va-et-vient entre effectivement celui qui a le mandat, celui qui l'a pas, s'il y a un vrai travail collectif avec des assemblées, avec des constructions communes, bon, je pense que les choses peuvent marcher. Si après l'élu ne correspond pas à ce pourquoi les gens ont voté, eh bien il y a effectivement la voie du vote. Mais je crois qu'il y a tout un travail démocratique à revisiter dans notre pays aujourd'hui.
Donc pas franchement favorable, on l'a entendu.
C'est ni franchement ni pas franchement, je pense qu'il faut travailler. La question qui est posée aujourd'hui, c'est justement le fossé qui existe avec un certain nombre de politiques. Moi, je suis une des rares, je crois, élus parlementaires, je ne suis pas seule, mais à continuer à exercer ma profession, bon, je pense que c'est déjà quelque chose d'important, d'intéressant, comment on travaille à
vous
tout ça.
Vous travaillez à mi-temps quand même, parce que...
Ah bah évidemment.
Merci beaucoup. Vous faites quoi ?
Je suis orthophoniste.
Merci Laurence Cohen d'avoir accepté notre invitation. Toujours de la pluie sur le sud-est, en particulier sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Ailleurs, un ciel couvert, parfois quand même de belles éclaircies dans l'après-midi. Température de 10 à 22 degrés. Fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.